Le Mag au carré, en partenariat avec la lettre Mètre Carré.
Eh bien bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Mag au carré. J'adore le Mag au carré, c'est bien de faire un peu de mathématiques, parce que le Mag au carré c'est bien ce dont il s'agit, puisqu'on va parler bien entendu, puisqu'on est sur Radio Immo, d'immobilier avec nos partenaires de la lettre Mètre Carré. Voilà, pour initier ce nouveau numéro, puisqu'on reprend cette collection pour tout 2022, je vous rassure les amis, c'est tous les mois que vous aurez le Mag au carré, qu'on a revu un petit peu dans sa forme. En tout cas, une chose est sûre, c'est que notre objectif, avec la rédactrice en chef de la lettre Mètre Carré qui est avec moi sur le plateau, c'est de vous fournir un max d'infos tous les mois. Voilà, elle est avec nous sur le plateau. Audrey Jourdain, comment ça va ?
Bonjour Sylvain, très bien. Et
voilà,
toi ?
Rédactrice en chef à la lettre du Mètre Carré. Je suis ravi que l'on se voit pour reprendre enfin cette collection. Un petit clin d'œil à notre ami Marc Huburtin, je suis sûr qu'il nous écoute. Alors, nous avons deux invités pour parler. On va parler d'investissement résidentiel, de luxe, mais pas que. On va parler aussi de toutes les, de un certain ensemble de classes d'actifs, mais particulièrement de résidentiel. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Sébastien Bertin. Bonjour.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va, Sébastien ?
Très bien, merci. Très heureux d'être avec vous.
Eh bien, moi, je suis heureux que vous soyez avec nous. Vous êtes associé, alors je vais essayer de le dire bien comme il faut, Mindstone.
C'est ça.
Mindstone Capital. Une fois. Voilà, Mindstone Capital, qui est un investisseur professionnel en immobilier résidentiel de luxe.
C'est ça. En fait, voilà. Mindstone Capital est une société de gestion et elle gère, entre autres, un fonds qui est dédié à l'immobilier résidentiel de luxe.
Alors, un marché qui se porte plutôt bien, d'ailleurs, on va le voir, extrêmement résilient comme classe d'actifs avec cette période de confinement, ce qui nous pousse aussi à réfléchir sur ce qu'est le luxe ou le prestige, puisque toujours faire une distinction entre les deux, et vous voudrez bien le faire. Je vous demanderai d'ailleurs tout à l'heure, si vous voulez bien, de présenter aussi votre entreprise pour qu'on vous connaisse un peu mieux. Voilà, un professionnel aguerri de l'immobilier, en tout cas, il a le verbe haut et il a l'air de bien maîtriser son sujet. C'est la première fois qu'il est sur Radio Immo, Grégory Twitou.
Bonjour, comment ça va, Grégory ? Très bien, ravi d'être avec vous.
Alors, Grégory, président directeur général du groupe Twitou, investisseur professionnel en immobilier résidentiel parisien.
Exact.
Vous savez, vous avez un homologue qui est un économiste réputé.
Oui.
Qui s'appelle Marc Twitou.
Oui.
Voilà. Absolument. Bon. C'est la seule question qu'il ne faut pas lui poser, c'est l'immobilier. Parce que vous lui posez la question de l'immobilier, après vous prenez un Valium ou deux Valium pour vous calmer, parce que avec Marc Twitou, c'est toujours une catastrophe annoncée. Non, mais je l'aime beaucoup, hein. Je le vois souvent sur BFM. Mais, en tout cas, non, pas de lien de famille avec.
Probablement pas, mais je crois pas en tous les cas, je ne suis pas encore informé.
Alors les amis, comme c'est l'usage dans ce Mag au carré, on fait une légère introduction effectivement pour vous présenter, pour vous connaître un peu plus. Je vais vous demander tout de suite, si vous voulez bien, de vous présenter très rapidement, vous avez une petite minute pour cela. Et ensuite on va passer à la séquence préférée de nos amis, c'est l'édito d'Audrey. Sébastien, on va commencer par vous, Mindstone en quelques mots.
Mindstone Capital. Alors, Mindstone Capital, c'est une société de gestion de portefeuille qui a un agrément AMF depuis 2020, donc c'est assez récent. Mais c'est une société qu'on a lancée dans le groupe Mindstone, qui lui existe depuis 2012 et qui est un asset manager immobilier. Donc, il fait de l'asset management immobilier pour compte de tiers, de l'investissement, historiquement sous forme de club deal. Et en 2020, on a décidé d'élargir notre intervention à des fonds régulés pour atteindre un plus grand nombre d'investisseurs qui veulent nous accompagner dans les stratégies qu'on défend, dont l'immobilier de luxe, qui nous a fait connaître, puisque ça fait maintenant 8 ans qu'on intervient sur cette niche de marché qu'on aime bien. Et on est très heureux de lancer le fonds Mindstone Luxury Real Estate, voilà, qui est dédié à cette activité, l'investissement résidentiel.
Et on peut savoir quel est le volume du portefeuille en gestion ?
Alors, ce fonds va investir environ 200-250 millions d'euros. Il a commencé à le faire. Il a eu son premier closing au mois de décembre 2021. Il a donc depuis un petit peu plus d'un mois et demi investi une cinquantaine de millions d'euros. Et il a encore 200 millions d'euros devant lui. Sur les 12-18 prochains mois, et il refera un cycle d'investissement de ce même montant quand il aura fini le premier cycle.
Merci, on en sait un peu plus sur Mindstone Capital. Le groupe Twitou que vous présidez, que vous avez fondé ?
Oui, alors c'est plutôt mon père qui l'a fondé, et moi j'ai pris la continuité et la direction de ce groupe depuis quelques années maintenant, depuis une dizaine d'années. Donc le groupe RFG, en fait, détient deux activités familiales, c'est une foncière d'abord familiale,
Avec le statut de foncière.
Avec le statut de foncière. La première activité, c'est l'intérim, qui est une activité, première des activités de notre groupe. Et la deuxième activité est l'immobilier. Donc on a développé des détentions plutôt moyen terme et long terme, et on crée des portefeuilles régulièrement. On a des volumes d'acquisition qui varient entre 50 et 100 millions d'euros par an. Voilà, sur du résidentiel.
D'accord. Et le volume de la foncière aujourd'hui en actifs gérés ?
On est sur à peu près, en termes de volume, on est entre 300 et 350 millions d'euros en valo.
Pas mal.
Ouais.
Pas mal. En tout cas, merci. On développera votre
avec
activité.
Plaisir.
C'est l'heure de retrouver votre séquence préférée. C'est l'édito d'Audrey Jourdain.
Le mag au carré, l'édito d'Audrey.
Spectaculaire. C'est le terme pour qualifier l'ascension de la classe d'actifs nommée résidentiel en bloc dans le monde de l'immobilier professionnel. Oui, plus de 55 milliards d'euros de capitaux sont investis chaque année sur le marché européen depuis 2018, contre seulement 10 milliards d'euros en 2011. Alors la classe d'actifs est même la deuxième du marché de l'immobilier professionnel. Alors pourquoi ce tel engouement ? Eh bien, on peut citer trois de ses atouts redoutables. Le premier, sa haute performance annuelle globale de 8%, qui comprend le rendement locatif plus celui en capital. Deuxième atout, son taux de rendement compétitif depuis la compression de ceux de l'immobilier d'entreprise traditionnelle. Troisième force, l'évolution démographique et sociologique. En conclusion, l'expansion de la classe d'actifs devrait perdurer. En revanche, mauvais point pour la France, son marché est seulement le sixième européen. Il se situe derrière l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suède et l'Espagne. Alors pourquoi cette mauvaise place dans le classement ? Eh bien, le principal coupable est le taux de rendement moyen qui est le plus faible du marché européen. Il s'élève à seulement 2,25%. Mais approfondissons le sujet avec nos deux invités experts du thème.
Merci beaucoup Audrey pour l'édito. Et c'est parti pour l'échange avec nos invités.
Les invités du carré.
Voilà, on va laisser une large part à vos commentaires, vous les experts, et bien sûr Audrey, n'hésitez pas à intervenir le cas échéant avec un édito plutôt en demi-teinte, hein, quand on l'a bien vu. Je vais commencer par vous, Sébastien Bertin. Alors, immobilier résidentiel de luxe. J'aimerais, si, surtout pour nos auditeurs, vous nous expliquiez ce qu'est l'immobilier de luxe, mais aussi de prestige, parce qu'on ne parle pas exactement du même sujet. Et la question, vous doutez bien que je vais vous poser cette question, c'est pourquoi vous avez axé cette stratégie d'investissement sur l'immobilier de luxe, à part finalement, parce que vous avez aussi exercé dans l'immobilier d'entreprise. Est-ce que, par opportunisme tout à fait compréhensible, vous vous êtes orienté sur cette classe d'actifs, parce qu'effectivement, elle a connu une performance dans les trois dernières années spectaculaire. Sébastien.
C'est vrai. Alors, vous avez raison, Sylvain. D'abord, il faut définir l'immobilier de luxe, résidentiel de luxe. Je crois qu'il y a un consensus parmi les agents immobiliers qui définit l'immobilier de luxe comme les biens donc, d'habitation avec une valeur supérieure à 2 millions d'euros. Nous, on a une définition qui est un petit peu plus sélective, peut-être, de cet immobilier de luxe, parce que avec cette définition que je viens de vous citer, finalement, tout appartement parisien qui fait plus de 150 mètres carrés, 200 mètres carrés, où qu'il soit d'ailleurs, devient
un
actif immobilier de luxe. Et voilà. Alors nous, on a une définition un peu plus restrictive. Notre définition de luxe vient de plusieurs critères, d'adresse, de quartier, de qualité architecturale, de volume, de vue sur des monuments parisiens. Et nous, on est plutôt sur des volumes de biens immobiliers. Donc quand on parle de propriété à Paris, on parle d'appartements, donc des biens avec des valeurs supérieures à 5 millions d'euros. Donc effectivement, on est sur une niche de marché qui est peut-être beaucoup plus fine que celle qu'on entend dans la définition collective de l'immobilier de luxe avec ses biens supérieurs à 2
millions. Bien sûr, avec des brokers aujourd'hui très connus sur le marché comme Barnes, autres,
mais aussi des
on comprend pourquoi, bien évidemment, par opportunisme tout à fait, encore une fois, compréhensible, hein, dans le bon sens du terme, on s'oriente sur cette classe d'actifs. Mais vous avez exercé beaucoup dans l'immobilier d'entreprise, donc je connaissais bien votre entreprise.
Moi, j'ai quasiment tout mon parcours professionnel est dédié à l'immobilier
qui a quand même un peu souffert, on peut le dire, ces derniers temps, avec une déshérence de certaines classes d'actifs, notamment situées dans l'Ouest parisien, dans lequel on a des taux de vacances jamais connus. En même temps, on a vécu la quatrième pandémie mondiale que le siècle précédent a connue, quand même, puisque la dernière pandémie remonte à 1954. et elle a fait disparaître en France quasiment la totalité de la ville d'Amiens, par exemple, en termes de la mémoire collective l'a oublié. Mais il y a eu 4 pandémies après celle de 1918, vous savez, la fameuse grippe espagnole. Alors justement, expliquez-nous pourquoi vous êtes allé sur cette classe d'actifs, qu'est-ce que vous y attendez? Et pourquoi, effectivement, vous avez délaissé, enfin délaissé entre guillemets, vous avez choisi d'ajouter cette classe supplémentaire?
Alors, on n'a pas délaissé les autres classes d'actifs.
Oui, vous avez ajouté une classe supplémentaire.
On s'est intéressé. Alors, on s'y est pas intéressé depuis la pandémie, qui effectivement a rebattu les cartes. Et on a entendu l'édito d'Audrey qui disait que effectivement l'immobilier d'habitation jouait un plus grand rôle maintenant dans l'investissement, notamment de la part des institutionnels. Nous, on s'est intéressé à cette classe d'actifs il y a 8 ans. Et on a considéré que c'était une classe d'actifs tout à fait intéressante avec en fait on a observé un décalage de marché. On a observé que la France, qui dans le monde entier est bien connue comme le pays du luxe, j'ai envie de dire, en toute matière, en cosmétique, en gastronomie, en haute couture, en joaillerie, on peut tout imaginer, la France souvent est associée à l'image de luxe. Et on a observé que en matière d'immobilier, on était en retard par rapport à d'autres pays, à d'autres grandes villes pour lesquelles vous pouvez trouver des propriétés qui sont complètement adaptées aux besoins de des acquéreurs les plus exigeants, comme Londres, comme New York, comme Hong Kong. Et on a considéré que Paris offrait peu de propriétés complètement adaptées aux besoins de cette clientèle fortunée internationale qui s'attend à avoir des biens climatisés, domotisés, complètement équipés avec des vues.
Ils sont quelques centaines, hein, je veux dire, c'est très gentrifié au sens, on parle d'une classe, qui possède...
Alors, je crois qu'on dénombre quand même dans le monde ce qu'on appelle les ultra high net worth individuals, les gens qui ont plus de 30 milliards de dollars de patrimoine. Il y en a pas loin de 250 000 dans le monde. Donc, c'est...
Oui, à l'échelle de, à l'échelle de 7 milliards d'êtres humains, on va dire que c'est...
Effectivement, c'est un faible pourcentage de la population, mais effectivement, c'est une clientèle, voilà, qui.
Est-ce qu'elle est très concurrencée, cette clientèle? La question, c'est que vous êtes beaucoup de gestionnaires d'actifs à travailler sur ce type de clientèle. Est-ce que aussi, y a-t-il une passerelle entre ce que vous faites pour l'immobilier entreprise qui vous amène ce type de client aussi? Est-ce que quelque part, le fait d'ajouter cette classe d'actifs vous permet d'avoir une proposition globale pour des entrepreneurs qui ont besoin d'immobilier tertiaire, mais qui sont aussi détenteurs de grandes entreprises, qui ont besoin de bouger, qui ont besoin et qui ont un niveau d'exigence dans les capitales d'Europe et du monde plus importante?
Effectivement, les personnes fortunées investissent dans l'immobilier. Alors, ça peut être leur immobilier de loisirs, leur résidence secondaire, mais bien souvent, dans le portefeuille de ces personnes-là, vous retrouvez aussi de l'immobilier d'entreprise, de l'immobilier d'investissement. Vous avez, parmi les personnes fortunées, pas seulement des rentiers, mais des hommes d'affaires, des entrepreneurs, et qui ont une approche pas seulement de l'immobilier d'habitation, mais également de l'immobilier professionnel. Donc il existe des passerelles.
Je suis ravi que vous citiez le fait qu'il y a des entrepreneurs qui investissent énormément et qui font travailler des dizaines, voire des milliers de personnes, plutôt que des personnes qui sont uniquement rentiers, etc. Non, mais c'est important dans le langage commun, mais vous le savez mieux que moi. Est-ce que les institutionnels, qu'on appelle les zinzins, vous savez, les investisseurs institutionnels, sont-ils présents sur cette classe d'actifs?
Alors, les institutionnels, historiquement, sont présents sur la classe d'actifs d'immobilier résidentiel.
De luxe.
Alors, de luxe, il n'y a qu'un pas, parce qu'encore une fois, avec la définition qu'on a dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'immobilier parisien qui est de luxe, ne serait-ce que par sa taille. Dans notre approche vraiment de l'immobilier de luxe complètement rénové, on fait intervenir des grands architectes, des designers systématiquement, des artisans avec des savoir-faire ancestraux dans la rénovation qu'on effectue. À mon sens, il y a encore peu d'acteurs qui vont dans cette catégorie d'actifs, mais il y en a quelques-uns. Effectivement, on a aussi des très beaux promoteurs qui font de l'immobilier de qualité, quelques marchands de biens qui s'associent les services également d'architectes. Donc c'est une niche de marché qui est certes étroite, mais qui commence à s'animer.
Alors justement, ça me permet d'aller vers cette transition. On parle souvent, vous savez, de valeur vénale, hein, sur la gestion d'un actif, et actuellement il y a un grand discours politique sur la généralisation de l'amortissement. Vous savez, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Dès lors que vous détenez à titre personnel ou sous couvert d'une entreprise ou d'un holding familial ou n'importe quel type de véhicule, les différences fiscales sont majeures, hein, notamment sur le plan de l'amortissement. C'est un vrai sujet, notamment versus le zonage qui a été mis en place récemment. En cette période préélectorale, on en parle beaucoup. Alors justement, on va parler d'actifs résidentiels sur les 10 dernières années. On voit clairement, on en a beaucoup parlé sur les plateaux, que l'immobilier de luxe, c'est une j'allais dire presque une ironie du sort, ou peut-être une ironie anthropologique, pourquoi pas, où on a finalement des riches qui sont devenus ultra riches, faut être très clair, et le fossé s'est vraiment creusé avec la middle class. Hein, on le voit bien, et on le voit très nettement à New York, par exemple, ou dans des villes comme Singapour, comme Londres, ou autres. Et on voit que cette classe d'actifs, elle a cru dans certaines villes, ou dans certains secteurs, de plus de 30%. Ça, c'est des chiffres absolument incroyables. Et en période de pandémie, dont on aurait pu croire un repli de cette grande fortune, on a presque l'idée d'un immobilier de conservation, qui stocke finalement des liquidités, puisque saturation de liquidités, ça vous le savez mieux que moi, vers de l'immobilier dont on sait, prestige ou luxe, qu'il va finalement, sinon pas prendre de valeur, en tout cas une chose est sûre, conserver sa valeur d'actif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Comment vous l'expliquez? Et est-ce que, du coup, je pense que vous allez dire le contraire, mais vous avez observé une baisse de ces fameuses valeurs, entre guillemets, vénales, qui sont enregistrées dans vos comptes, pour justement essayer d'analyser ce qui est en train de se produire. Parce que aujourd'hui, pour être très clair, l'immobilier de luxe, c'est hyper bankable, quoi.
Alors moi, ce que j'observe, donc ça fait 8 ans hein, qu'on s'y intéresse, il y a, je pense, une moindre volatilité des valeurs qu'on peut retrouver dans d'autres grandes villes comme New York, Londres.
D'accord, c'est clair. Ouais.
Mais c'est vrai qu'au cours de ces 8 années, on a plutôt observé une progression des valeurs. Et une progression qui a eu tendance effectivement à s'accélérer avec la crise.
Donc c'est clairement pas une baisse de valeur du tout sur les 10 dernières années, si on mesure en évolution constante.
C'est clairement pas une baisse, effectivement.
Dernière question, comparé aux autres capitales mondiales, vous l'avez dit tout à l'heure, Paris manque parfois d'attractivité. Et je vais vous citer 3 cas. Le premier, c'est le problème de mobilité. On a 25 ans de retard sur le Grand Paris Express. Bon, il s'est acté. On va espérer que dans les 20 prochaines années, ce soit le cas. 2, la connectivité. Il y a des inégalités connectiques qui sont absolument incroyables sur l'Île-de-France. Hein. Je rappelle qu'il y a 8 départements, que c'est 1/5 de la population française. Et le troisième point qui parfois est compliqué, c'est la structure, j'allais dire, fiscale ou juridique du pays. Et pourtant, malgré ces 3 éléments, Paris reste toujours aussi une ville aussi attractive. Il y a quelque chose d'irrationnel. J'aimerais que vous nous disiez un petit peu. Alors, faites-nous rêver. Est-ce que Paris, finalement, conserve toujours cette aura incroyable qu'elle a dans le monde entier, quoi, malgré tout?
C'est vrai qu'il y a sans doute des freins dans le regard des étrangers quand ils ont, je ne sais pas, l'image de la France, peut-être pour certains associée aux grèves, aux gilets jaunes, à une fiscalité.
À la rue de Rivoli, où les roues ne peuvent plus rouler.
L'arrivée de Charles de Gaulle, c'est compliqué. Donc il y a sans doute des freins à l'investissement à Paris. Mais on observe effectivement qu'il y a cet amour, alors qui est peut-être dépassé par l'architecture qu'on propose, l'art de vivre à la française, les musées, la culture. Et puis il n'y a pas que Paris en France, on a une superbe d'autres destinations qui attirent les plus fortunés de ce monde, à la montagne, sur la Côte d'Azur, la côte atlantique, des stations balnéaires qui sont super, qui font que l'attractivité de la France ne se réduit pas à celle de Paris. Et effectivement, ce qu'on observe, c'est que alors il n'y a pas que les étrangers hein, qui achètent de l'immobilier de luxe, on a aussi encore une fois beaucoup de Français, on a quelques grands capitaines d'industrie, des grandes fortunes françaises qui sont également consommateurs de ces produits. Et tous, voilà, vont au-delà de ces quelques freins que vous avez cités pour continuer à investir dans la plus belle pierre.
Ce qui est intéressant, c'est l'inflation normative dont fait preuve la France avec un exercice ça frise le génie. Hein. C'est plus de 400 000 normes hein, pour l'immobilier. Juste, si vous prenez le code de l'urbanisme, vous avez, vous avez un étage. Même si le président Macron s'est engagé effectivement à essayer d'alléger la norme. Vous savez, quelques milliers de normes en moins sur 400 000 éléments, ça peut rendre un peu schizophrène. Et pourtant, Paris reste Paris. C'est intéressant, parce qu'il y a après quelque chose, il y a quelque chose d'assez irrationnel dans l'attractivité. Et j'allais dire, je salue votre action, puisque sans des entreprises comme les vôtres, il n'y aurait pas ce rayonnement parisien. Donc ce que vous faites est fondamental, et pas uniquement pour les classes des ultra-riches, parce qu'il faut savoir que quand un ultra-riche arrive dans la capitale, il fait travailler une chaîne de métiers absolument considérable. Je voudrais juste qu'on le rappelle, c'est hyper, hyper, hyper important.
Et c'est ce qu'on préfère en fait sur cette niche de marché, et merci de le souligner. On a la chance d'avoir des formidables artisans, dont on est très fiers. Nous, on travaille avec quelques entreprises qui sont même des entreprises du patrimoine vivant.
Absolument.
Et on a la chance que ces capitaux étrangers qui finalement viennent acheter la belle pierre parisienne, eh bien... Il faut saluer aussi ce mouvement, ça permet de faire vivre tous ces artisans, de faire perdurer tous ces savoir-faire.
Et il y a un très beau film avec Guillaume Canet qui va sortir sur les Compagnons du Devoir, l'association ouvrière des Compagnons du Devoir, que j'ai eu le plaisir de connaître moi dans ma jeunesse, puisque je suis un ancien Compagnon du Devoir. Et pour citer un exemple dans vos propriétés de luxe, vous avez un ascensoriste très connu, qui est magnifique, qui s'appelle Drieux Combaluzier. C'est juste un poème d'entrer dans la cabine en marqueterie, en ébénisterie, avec une ferronnerie d'art, et pour aller vers cette mobilité qui a changé la vie des gens. Je trouve ça remarquable. Merci beaucoup à vous, Sébastien Bertin, associé chez Manston Capital. Je vais demander à notre ami Baptiste de mettre l'URL de votre société, parce que j'aimerais bien qu'on en sache un peu plus avec nos auditeurs, aillent sur votre site Grégory Twitou. Alors vous êtes une famille qui a l'immobilier, chevillé au corps. Chevillé au corps, vous êtes une force entrepreneuriale, ça c'est clair. Moi j'ai envie de vous poser la question, parce que vous n'êtes pas uniquement abonné aux classes d'actifs les plus prestigieuses. En fait, vous appréciez chaque classe d'actifs selon sa valeur. Quelles sont pour vous les valeurs du marché résidentiel parisien, sachant que Paris quand même un marché très irrationnel?
Effectivement, on a d'abord... La rareté des produits et des immeubles en bloc se fait de plus en plus importante, et on a des difficultés en sourcing à trouver des beaux actifs. Donc d'abord, la qualité intrinsèque des immeubles est très importante pour nous. Et quand je dis cela, je parle surtout d'immeubles pierre de taille.
D'accord, ça veut dire que vous excluez par exemple les immeubles de la première bordure parisienne qui sont dans Paris. Qui avait été, par exemple, lorsqu'on voit par exemple Inly ou la RATP qui liquide des classes d'actifs, vous savez, parce qu'à l'époque on logeait les cheminots, vous savez, au bas de la pièce de métro. Ces appartements se vendent comme des petits pains. Est-ce que pour une boîte comme la vôtre, un investisseur, ça reste intéressant à
acquérir ? Bien sûr. Non, ça reste intéressant à intégrer. Néanmoins, là où on peut amener de la valeur ajoutée, que ce soit sur les immeubles en règle générale ou les appartements, on continue à faire beaucoup, beaucoup de travaux. Et je citerai le dernier exemple en date sur un immeuble que nous avons réalisé au 55 rue de la Fédération, où on a même essayé de prendre date avec une étiquette énergétique qui corresponde un peu à l'air du temps. Et on a fait une technique un peu nouvelle pour nous.
Une lettre C, par exemple.
Exactement. On est venu faire un doublage sur l'extérieur avec un parement en pierre.
Et vous avez eu l'autorisation... C'est un immeuble... De la mairie de Paris.
Alors, c'est un immeuble des années 70, figurez-vous.
Oui, parce que Emmanuel Grégoire, qui est le premier adjoint à la mairie de Paris, qui se charge de l'immobilier, nous a dit clairement, sur ce plateau, il n'y aura pas de rénovation par l'extérieur. C'est extraordinaire.
Écoutez, nous, on l'a eu.
Bravo.
On l'a
Bravo.
Eu.
Vous nous autorisez à aller faire un reportage dans cet immeuble?
Bien sûr, oui.
Eh ben, on le fera, sans problème.
C'est un très bel immeuble, c'est un immeuble d'angle, et il nous a permis cette technique.
Sans perdre de mètres carrés, hein, parce qu'il faut rappeler que la réno par l'extérieur permet d'optimiser le mètre carré. Parce que quand vous ne pouvez pas le faire, vous êtes obligé de le faire de l'intérieur.
Oui.
Résultat, vous pouvez avoir des différences de plusieurs mètres carrés.
On a pu le mettre en œuvre parce que c'était un immeuble des années 70, avec le changement des ouvrants également.
Et ça n'aurait pas été le cas dans un immeuble haussmannien.
C'est beaucoup plus compliqué. On est en train de l'étudier sur des immeubles haussmanniens. C'est beaucoup plus contraignant. Une pierre de taille en façade, j'imagine que c'est très difficile à mettre en œuvre. En tous les cas, on y réfléchit en ce moment.
Alors, Paris voit depuis janvier 2021 le prix moyen du mètre carré, littéralement, j'allais dire, pas stagner. Parce qu'il y a quand même des différences, hein. Faut quand même, faut pas non plus exagérer. Moi, souvent, sur mes éditos que je fais sur BFM Business, on constate une vraie hétérogénéité. On peut pas dire que c'est une baisse, on va dire significative. Mais quand même, on observe un tassement. Est-ce que cette tendance à la baisse des prix, est-ce que, pour l'investisseur que vous êtes, est-ce que c'est plutôt un frein à vos acquisitions ou pas?
On constate évidemment qu'en détail, il y a une stagnation des prix, effectivement, et on le ressent avec nos agences partenaires. Localement, il y a vraiment un ralentissement en tous les cas. Pour les investissements à venir, et pour ceux qui sont déjà en cours, pour nous, ça ne change pas grand-chose en réalité, parce que les valeurs blocs sont toujours aussi importantes par rapport aux valeurs découpes, voire plus importantes en bloc qu'en découpe.
Donc Pourquoi
La rareté. La rareté de trouver des immeubles aujourd'hui en pleine propriété.
Mais alors du coup, vous êtes hyper nombreux sur un même segment, quoi.
Absolument.
Parce que là, c'est... Je vais pas faire mon journalisme, mais c'est bonjour 40, au revoir 60.
Alors c'était le cas il y a très très longtemps, mais aujourd'hui on amène vraiment des travaux, on amène des valeurs ajoutées.
Ça veut dire...
significatives par rapport à il y a 30 ans.
Hein. Mais voilà, merci pour mon âge, c'est gentil. Ça fait super plaisir à entendre. Soyons clairs, aujourd'hui on a des détenteurs effectivement, alors je parle effectivement d'une détention en bloc avec unipropriétaire ou une famille qui détient. Je prends pas le problème des indivisions qui est un autre sujet aussi un peu plus complexe, mais clairement, la force, le rapport de force il s'est un peu inversé quand même, non ? Si vous êtes nombreux, est-ce que les valeurs ajoutées, les services que vous allez proposer vont faire pencher de la balance autre chose qu'une surenchère au niveau des prix, pour être très concret, quoi.
Oui, oui.
Ça, ah oui.
Mais oui, oui. On a quand même.
C'est bien.
Oui. On est quand même maintenant très nombreux sur le marché à faire la même activité d'achat d'immeubles en bloc. Ces derniers temps, tout le monde s'est réfugié sur le résidentiel, que ce soit les institutionnels ou les autres.
Et on comprend pourquoi.
Mais je peux vous dire une chose, c'est que en fait, on est dans un micro-marché. Quand vous regardez bien. Que vous parliez avec une foncière familiale, un institutionnel, on revient toujours dans le même cercle.
Mais oui. Mais en plus, vous avez une particularité, vous investissez qu'à Paris, hein, c'est
bien
ça.
Oui, on ne dépasse pas la bordure périphérique.
D'accord. Mais Est-Ouest, pas de problème, on est d'accord.
Oui.
Il n'y a pas de discrimination là-dessus géographique, parce qu'il y a aussi des quartiers émergents qui sont en train d'être littéralement en révolution. Le quartier Saint-Fargeau, par exemple, qui a été très longtemps délaissé, commence à reprendre des couleurs. Le quartier de la rue des Orteaux, aujourd'hui, sur lequel on a fait quelques opérations récemment extraordinaires, hein, je trouve ça assez formidable. Alors justement, la baisse des prix, à votre avis, qu'on observe, hein, qui va de 0,5 à 2, 3, 4% sur certains quartiers, on a même constaté des baisses à 5%. On voit bien que l'impact de la rénovation énergétique, avec le nouveau calendrier fixé sur les 7 lettres énergétiques, est quand même drastique. Hein. Je rappelle qu'à partir de 2028, on ne peut plus louer une lettre F et G. À partir de 2034, ça sera... révolutionnaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ABCDE, et encore, on se demande si ça va être le cas. Question, est-ce que, à votre avis, le marché, enfin, va pouvoir peut-être finalement s'atomiser un peu et devenir un peu plus rationnel ? Est-ce que c'est finalement pas une opportunité pour vous, les investisseurs ?
Écoutez, je pense que ça risque de l'être, en tous les cas, dans les années à venir. Les travaux conséquents à réaliser pour rentrer dans le cadre des nouveaux DPE, notamment, en font partie. Et... on continuera, à mon avis, à avoir, je l'espère, en tous les cas, une espèce de variable qui s'arrête.
Un plateau.
On va rentrer dans le plateau.
En plus, vous les exploitez, les actifs.
Ben oui, bien sûr.
Vous les gardez longtemps.
Oui.
Donc, ce n'est pas votre intérêt. On est d'accord.
Non, tout à fait.
Donc, finalement, louer à 37 euros du mètre, ce n'est pas forcément la politique de la maison. Si vous pouviez louer à 29 ou à 28, vous le feriez.
Oui, ça a toujours été notre politique.
Bravo.
On n'a pas vocation à louer très, très cher, à moins de faire quelque chose qui soit un peu similaire. Mais non, on veut louer pérenne, en bon père de famille.
Grégory, on loge des gens avant tout.
Absolument.
On loge des familles,
oui.
des enfants qui peuvent avoir un accident de la vie. Ça a l'air comme ça un peu...
Non, mais c'est bien de rappeler.
Mais c'est bien de rappeler que votre fonction aussi à vous, Sébastien, même pour servir les plus riches, c'est aussi, parce que quand je le rappelais tout à l'heure, ça permet effectivement d'essayer de dégentrifier finalement certains quartiers, de créer plus de mixité. Et ça, c'est bon pour la valeur des actifs,
bien sûr.
C'est beaucoup plus pérenne. Voilà. Information pour les brokers qui nous écoutent, les apprentis brokers notamment. Quels sont les tuyaux de Grégory Twitou, critères de recherche pour les immeubles résidentiels parisiens. S'il nous donne la solution, je ne le croirais pas. Hein. Il va le garder pour lui.
Mais il n'y a pas...
Les deux, trois trucs à savoir, vraiment les bons critères de choix.
Les bons critères, ce sont des... Il faut voir des... Enfin, d'abord, première chose, c'est que le groupe RFG et moi-même, on est enclin à répondre à tous les appels téléphoniques. On est très ouvert et on est toujours à la recherche de nouveaux contacts. Je crois que c'est important de le rappeler parce que souvent, dans nos activités, certains peuvent parfois l'oublier. Concernant les critères, oui, on va être sur des immeubles résidentiels la plupart du temps, avec des surfaces minimum environ entre 500 jusqu'à... dans l'état idéal pour nous, c'est jusqu'à 2000 m². On est plutôt très confortable. Et sur la qualité des immeubles, on préférera évidemment les immeubles des années 70, parce qu'on a appris à rénover ces immeubles-là, et les immeubles haussmanniens, bien évidemment.
Alors en plus, vous avez bien fait d'apprendre à les rénover, puisque le premier DPE, nouveau DPE du 1er janvier 2022, n'avait pas intégré les matériaux des bâtiments d'avant 75. Résultat, 80 000 DPE qui avaient été complètement déclassés. Je vous imagine la tête de ceux qui vendaient. Et nouveau DPE depuis le 1er novembre, qui apparemment tient à peu près ses promesses. On fera un bilan dans le futur. Voilà, c'était pour ce numéro un peu plus long que d'habitude, c'est normal, puisque je l'anime, donc forcément c'est un peu plus long. Encore une fois, du mag au carré, ça s'est bien passé, Audrey?
Parfaitement, je suis ravie.
Et en plus, des invités, voilà, très inspirants, ça me fait extrêmement plaisir, parce que n'oubliez pas, messieurs, vous Sébastien et vous Grégory, que beaucoup de jeunes vous écoutent aussi, et quelque part, l'exemple ou l'exemplarité, elle est importante, parce que ceux qui seront aux affaires demain, bah, c'est certainement pas nous, ce seront certainement eux, voilà, les générations des trentenaires, comme notre cher Audrey, rédactrice en chef à la lettre Mètre Carré. Voilà, on va se retrouver le mois prochain pour un nouveau numéro, on vous réserve des surprises. Le podcast est bien sûr réécoutable sur l'ensemble des plateformes, mais aussi sur Deezer, Spotify, Free, Orange, Radio Imo, et bien sûr nos amis de la lettre du Mètre Carré. Un grand merci à vous Sébastien Bertin, associé chez Mindstone Capital, l'URL de votre site et sur le podcast. Je vous encourage fortement y aller. Je sais que vous recrutez aussi régulièrement sur ce marché-là, qui intéresse bien sûr et qui fait rêver. Pourquoi pas ? Merci d'avoir participé à cette émission. Et un grand merci à vous, Grégory Twitou, président directeur général du groupe éponyme Twitou, RFG, vous l'avez dit tout à l'heure, investisseur professionnel dans l'immobilier résidentiel et parisien, donc un expert parisien. Donc si j'ai besoin d'un expert dans l'immobilier parisien,
pour avec grand plaisir,
je vous appellerai avec grand plaisir. Merci Audrey.
Merci
et on
Sylvain.
Se retrouve le mois prochain.
Le Mag au carré, en partenariat avec la lettre Mètre Carré.